Alone.
Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambil.
Adiciat et bienvenue dans votre émission Page à Page. Nous nous retrouvons comme chaque jeudi de 9h30 à 10h sur Radio Occitanie. Alors aujourd'hui je reçois Alain Monnier. Bonjour Alain.
Bonjour.
Pour son dernier livre intitulé Givré, paru aux éditions Flammarion, son 8e livre dont il va nous parler dans un petit instant. En attendant, comme à l'accoutumée, quelques petites infos. Alors tout d'abord, des places à gagner pour le Marathon des mots qui se déroule du 15 au 18 juin prochain, avec des places pour le spectacle du jeudi 15 justement à 21h au cloître des Jacobins, flamenco catalan avec Miguel Poveda, Chicuelo et Ramon Lul. Donc voilà, jeudi 15 à 21h, et pour le spectacle qui a lieu le samedi 17 juin à 21h30 à la chapelle des Carmélites, chanson d'amour au Lolitas Club de Juan Marcé par Georges Lavaudan en présence de l'auteur. Donc pour ces deux dates, ces deux spectacles, donc jeudi 15 et samedi 17, je vous donne un numéro de téléphone et puis vous appellerez donc Lucienne au 05 61 23 19 35 05 61 23 19 35 en demandant Lucienne, et puis vous direz que vous êtes auditeur ou auditrice de Radio Occitanie. Voilà, donc ça c'était pour la petite info pour le Marathon des mots. D'ailleurs, le Marathon des mots fait beaucoup parler de lui parce que Alain Monnier lui-même y sera, et puis son livre sera à l'honneur le jeudi 15 à la médiathèque de Toulouse, exactement à 15h, voilà le premier jour du marathon. Et puis Frédéric Martin, il sera également le samedi, l'écrivain que vous connaissez déjà, puisqu'elle est venue il y a peu de temps nous présenter son dernier livre, Papier du sang. Elle y sera, elle, le samedi 17 juin à 14h30 au TNT, donc dans le cadre du Marathon des mots. Et donc ce sera une lecture à deux voix avec la comédienne Agnès Sourdillon. Et elles liront donc un extrait de son livre de nouvelles Les Chardes du silence et de son dernier livre de prose poétique, Papier du sang. Et puis Frédéric Martin qui sera ce samedi pour la fête de l'humanité à la Mounède à 16h, où elle lira également en musique avec Christophe Honold, des textes, donc des extraits de son livre Papier du sang. Voilà, ça c'était pour les petites infos concernant le marathon des mots. On en reparlera de toute façon puisque ça commence jeudi prochain. Au Salon Privat, 14 rue des Arts, mardi prochain, 13 juin à 18h, vous pouvez rencontrer Janine Garrison pour son dernier livre « Gabriel Destré » aux Marches du Palais, édité aux éditions Talendier. Alors elle a écrit sur Henri IV, sur l'Édit de Nantes, sur Catherine de Médicis. Et puis cette fois, c'est de la jeune et têtue maîtresse royale du Béarnais dont elle va nous parler dans cette superbe biographie, où la fortune côtoie les chausse-trappes et où le destin l'emporte toujours. Donc mardi 13 juin à 18h au Salon Privat, 14 rue des Arts, donc rencontre avec Janine Garrison. Et puis au Salon Privat toujours, mercredi 14 juin à 16h, un tableau-spectacle de Mercedes Pujol, donc pour les enfants de 1 an à 4 ans, donc là le public change un petit peu, avec son talent de conteuse, son imagination haute en couleurs, Mercedes Pujol nous régale à nouveau. Elle était déjà venue cet hiver et elle entraîne les tout-petits, tout du moins, et les parents qui s'y joindront, à se demander qui suis-je. Donc avec trois petites histoires, donc à venir découvrir mercredi 14 juin à 16h au Salon Priva, 14 rue des Arts. Et puis je vous rappelle simplement, pour terminer ces petites infos, que ce soir, jeudi 8 juin, à partir de 19h30, au Café de l'Esquille, le Café de Philosophie, qui se situe 63 rue du Thor. Comme c'est le deuxième jeudi, le sujet est annoncé, donc je vais vous dire le sujet. Le libertinage est-il liberté ? Donc, du libertin antique esclave affranchi au libertin du XVIIe siècle, revendiquant liberté d'esprit et de mœurs, à la libération sexuelle de la société occidentale du XXe siècle, est-ce initiation à la liberté et ou hédonisme, point d'interrogation. Donc vaste question, vaste débat. Donc si ce sujet vous intéresse, ce soir, rendez-vous à partir de 19h30, 63 rue du Thor, Café de l'Esquille. Je vous donne le numéro de téléphone pour tout renseignement complémentaire, 05 61 23 42 46, 05 61 23 42 46.
Page à page, Claire Ambille.
Pou, pou, pitou.
Voilà, donc les infos sont finies, tout à fait. Donc je me tourne maintenant vers mon invité, donc Alain Monnier, que j'avais reçu en septembre l'année dernière pour son livre qui était « Par peau, le bienheureux ». Voilà, oui. Donc on en avait parlé. Ça, c'était le troisième d'une série. Enfin, il y en avait trois de Par peau.
Une trilogie,
donc
oui.
Voilà, une trilogie. Voilà, je cherchais le mot. Merci. Donc une trilogie. Voilà, c'était le dernier donc de la trilogie. Et puis là, donc aujourd'hui, vous revenez avec Givré. Alors là, ça n'a rien à voir du tout avec les Par peau. Les personnages sont pas les mêmes, évidemment. Et puis bon, c'est pas du tout le même sujet, quoi. En fait, vous vous attaquez pas aux mêmes choses.
Oui et non. Enfin, disons que je m'attaque. Je crois que la forme est profondément changée, puisque Par peau, c'était des livres qui étaient écrits avec des traces écrites, que ce soit des lettres, des comptes rendus, des articles
voilà.
de journaux.
Voilà. Parce que là, c'est un Alors livre là, version une... traditionnelle, voilà, on va dire, avec des chapitres.
On est dans une narration beaucoup plus classique, mm-hmm. Avec une héroïne qui s'appelle Marie. En revanche, je crois qu'il y a quand même un lien, c'est qu'il y a toujours cette critique ou ce regard sur la société qui avait à travers la naïveté de Par peau et qui aujourd'hui perdure quand même par rapport à cette Marie qui a ses critiques du monde dans lequel elle vit.
Oui, tout à fait. Oui, ça, c'est un peu la satire de notre...
C'est un regard posé sur notre modernité, sur... pas mal de choses qui peuvent nous agacer sur la consommation,
sur les services après-vente.
Voilà.
Donc le personnage principal, donc comme vous le dites, donc c'est alors donc Givré, c'est votre huitième livre, hein, parce que vous n'avez pas écrit non plus que les Par peau,
oui.
Il y en avait eu d'autres avant, hein. Donc le huitième livre, donc il est aux éditions Flammarion, hein, cette fois-ci. Vous avez donc Climat s'est transformé en Flammarion.
Alors Climat, donc c'est une maison d'édition à Montpellier, chez qui j'ai fait donc premier livre.
Voilà,
et il se trouve que donc Climat a arrêté son activité parce que son responsable a pris la retraite, tout simplement, et que cette maison d'édition a été rachetée par Flammarion. Et donc, très naturellement, j'ai proposé mon manuscrit à Flammarion.
Et ils ont accepté Givré.
Et
ça
a continué sous cette bannière.
Et donc, il faut dire que c'est un livre quand même de 186 pages. Hein. C'est quand même un bon petit... Voilà. Et puis, il vous a pris à peu près un an d'écriture.
Un an et demi, voilà. À peu près... C'est un montant moyen, quoi, finalement, pour écrire un livre. Un an et demi, deux
oui,
ans.
Bah oui, parce qu'on ne peut pas écrire, j'imagine, tous les jours. Vous avez une activité salariée à Toulouse. Vous habitez Toulouse. Et donc, voilà, on ne peut pas faire que ça
donc,
tout le temps.
Moi, l'écriture, c'est de 9h le soir à minuit. Voilà.
Ah voilà, vous vous donnez des...
C'est pas que je me donne, mais bon, finalement, dans la journée, j'ai...
Vous ne pouvez pas.
Je ne peux pas, donc c'est le soir. Voilà.
D'accord. Et dans votre cuisine ?
Effectivement, celui-là, ça a été dans ma cuisine.
Parce qu'à la fin du livre, on va le dire, voilà, il y a marqué, bon, souvent les écrivains font ça, voilà, à la fin du livre, ils mettent la date de
oui,
fin
enfin,
l'écriture avec un lieu.
C'est une ultime moquerie, puisqu'il y a beaucoup, je crois, enfin, j'essayais pas mal d'humour.
Ah oui, j'ai beaucoup souri, j'ai même ri.
Dernière ligne, souvent, vous avez des gens qui vous disent, bon, je sais pas moi, octobre 1966, Mogadiscio, mai 1967, Delhi, un truc comme ça. C'est toujours des lieux pas possibles. Donc, moi, je me suis amusé à mettre octobre, là, mai, ma cuisine.
C'est voilà,
plus vrai, cuisine, parce que voilà. C'est une histoire de réfrigérateur. Et je l'ai écrit, effectivement, le soir ou le matin dans ma cuisine.
Voilà. Et vous avez devant votre réfrigérateur.
Voilà, c'était ma muse.
Voilà, c'est original d'avoir un réfrigérateur comme muse. Donc ce livre que je vous conseille vraiment d'emmener dans vos valises cet été pour le déguster au bord de la plage, à la montagne, où vous voulez, parce qu'il est vraiment drôle. Vous allez sourire, vous allez aimer ce livre. Donc ce livre, en fait, voilà, ça parle, bon, ça ne parle pas que de réfrigérateur, mais enfin, bon, non, on peut dire que... Ça commence comme ça et ça finit alors avec une foison de réfrigérateurs.
Il y a trois entrées un peu dans le livre. La première, c'est quand même d'abord cette héroïne Marie qui a une histoire d'amour, qui est une histoire d'amour qui semble a priori impossible parce que elle est amoureuse de son confident de son ami qui est plus âgé qu'elle depuis 15 ans, donc ils sont amis.
L'écrivain. Ils ne sont pas nommés, à part Marie qui a un prénom, tous les autres sont juste nommés par leur activité, on va dire.
Voilà. Histoire d'amour qui semble impossible entre deux êtres qui se connaissent trop, qui sont trop proches l'un de l'autre pour démarrer quelque chose, semble-t-il. Donc ça, c'est la première histoire. La deuxième entrée, c'est cet univers des réfrigérateurs et du monde moderne avec toutes les pannes, tous les centres d'appel, enfin, toutes ces choses-là. Et qui prend un peu l'allure d'une fable au sens où, par des concours de circonstances malencontreux, les réfrigérateurs vont s'entasser dans l'appartement de Marie, puisqu'elle n'aura jusqu'à une vingtaine. Et donc, c'est un peu une fable absurde, un peu à la Ionesco, peu à la Buñuel, dans ce monde-là. Et le troisième niveau, c'est à travers donc le livre, il y a l'auteur lui-même qui a des petits commentaires et qui parle un peu du ce qu'on disait tout à l'heure, de tout ce qui peut nous agacer tous, par exemple le client roi, la charte qualité machin, et le discours qui envahit et qui s'écarte de plus en plus de la réalité, que ce soit justement sur le monde industriel, que ce soit dans la politique, dans l'art contemporain, où on vous sert un discours et où on a un monde réel qui est de plus en plus éloigné de ce discours et qui devient presque un monde virtuel pire que celui de l'informatique. Et donc ça, c'est le troisième propos, un peu plus de fond, qui sous-tend cette fable.
Donc voilà, Marie, personnage principal. Après, donc, elle a un amant, donc il est nommé l'amant dans ce livre. Donc l'amant, bien sûr, il est marié de son côté. Et puis il y a le réparateur, donc avec un des personnages clés du livre.
Les personnages qui entourent Marie.
Voilà, au départ. Après, donc, il y a l'écrivain dont vous venez de parler, donc, qui est son ami depuis 15 ans, confident. Voilà. Et puis après, bon, il y a des personnages un peu annexes. Il y a sa copine.
Il y a la personne qu'elle a dans le call center, qu'elle a au téléphone quand elle appelle le call center.
Jean-Hugues.
Il y a le présentateur de la télévision locale.
Oui. Il y a son père qui est un personnage important, parce que bon, après ça part aussi dans une affaire de famille, enfin un peu dans les rapports fille-père avec du passé qui ressurgit.
Et avec des frigos entre eux.
Et avec des frigos entre eux.
Parce que le grand-père était quincaillé dans l'Ariège et c'était la première personne qui a introduit ces réfrigérateurs dans les fermes du Piémont-Pyrénéen. Et donc j'ai pris aussi le réfrigérateur parce que c'est un petit peu le symbole me semble-t-il, de la société de consommation, du démarrage en tout cas de la société de consommation.
Les premiers frigos, ça a été important.
C'est assez amusant parce que sur la couverture, donc Marion a mis ce vieux frigo et j'ai beaucoup de... Bon, quand on va dans les salons, dans les librairies, beaucoup de retours de lecteurs qui me disent « Ah, mais j'avais le même frigo un peu arrondi chez mes parents, etc. »
Oui, c'est vrai.
Et je ne m'étais pas rendu compte à quel point, si vous voulez, ça avait marqué un peu tout notre imaginaire.
Et
c'est vrai que moi aussi, quand j'ai vu cette couverture, chez mes parents, il y avait ce frigo arrondi, il fallait tirer une poignée qui faisait clic-clac chaque fois.
Non, c'est vrai que la couverture est bien jolie avec un fond bleu et puis on voit une jeune personne donc, devant un frigo, devant un vieux frigo.
Appuyé de façon émue.
Voilà, devant un frigo. Donc version
années 50-60.
Voilà, années 50-60. Donc c'est un plus, c'est une couverture très qui représente bien le livre. Et donc il y a sa copine, son père. Et puis moi j'ai mis, il y a le hamster Bilou.
Oui, il y a le hamster Bilou qui fait
un hamster russe. Voilà. C'est très à la mode. Les jeunes aiment bien les hamsters russes en ce moment.
Oui, donc si vous, là aussi, bon, c'est un clin d'œil. Ils viennent de Russie, etc. Et puis vous le trouvez plus facilement à la rocade sud, à sortie de Lagnac.
Genre un magasin
chaque
qui
fois,
vend
donc,
des
ce
hamsters.
Chaque fois, donc ce discours qui vous donne une notion qui est très marchande, qui dissimule des choses très marchandes souvent derrière.
Oui, donc c'est pas mal, donc ça s'est axé pas mal sur le, tout le côté marchand, quoi, de toutes les incongruités, toutes les.
Voilà, c'est typiquement. Enfin, je crois qu'une des raisons au début où j'ai eu envie d'écrire ce livre, c'est typiquement tout ce discours. On vous dit, vous êtes le client roi, on est à votre écoute, la charte qualité, etc. Et puis, dès que vous voulez, ne serait-ce que parler à quelqu'un, non pas être réparé ou tout ça, mais vous avez des call centers, vous avez des robots, vous avez des touches étoiles.
Puis on, et puis, vous avez personne. Pour
vous, ne serait-ce que pour vous écouter, alors qu'on n'arrête pas de vous dire, on est là, on est présent. Voilà. Donc ça, c'est cet agacement qui était peut-être le.
Vous l'avez vécu vous-même pour
tout le monde
X,
l'a vécu,
oui.
Je crois, si vous avez acheté un PC un jour, si vous avez un téléphone portable, si vous avez n'importe quoi, je crois qu'on y est tous confrontés.
Et c'est venu de quoi donc cette idée? Parce que bon, ça change quand même de tous vos livres précédents. Je veux dire quand même que ça soit Anna.
Ah oui.
Enfin voilà ou. Côté jardin, enfin je veux dire, ça, vraiment là ça tranche un peu.
La naissance d'un livre est toujours assez mystérieuse. Bon, oui. C'est vrai que parmi les livres que j'ai fait, à part les trois par peau, c'est des choses quand même très différentes. Hein, puisque j'ai fait des choses
survivantes,
enfin, des choses qui ont à voir avec la prospective ou avec des choses plus dramatiques, etc. Puis la naissance d'un livre, elle est assez mystérieuse. Je crois que c'est un amalgame de plusieurs choses. Là, il y avait cette envie, cet agacement là, de ce que je vous ai dit, discours ambiant. Il y avait que, tout bêtement, j'ai acheté un frigo neuf qui tombait en panne tout de suite. Et puis j'ai appelé.
D'accord.
Donc,
donc il y a du vécu quand même récent
J'ai appelé, je leur dis, voilà, le frigo que vous venez de m'amener est en panne. Et quelqu'un qui vous dit au téléphone, mais monsieur, ce n'est pas possible. Je dis, venez le voir. Enfin, bon. Et donc, vous en avez pour 10 minutes pour vraiment le convaincre que votre truc ne marche pas. Quoi. Voilà, donc ça, c'était un petit ferment. Et puis, diverses...
Oui, puis après, une fois
c'est
qu'on
commence...
C'est
des petites choses qui fait qu'à un moment donné, l'envie vient et que vous partez dans quelque chose. Mais je ne saurais jamais, l'analyser très précisément.
Ben, ce que je propose, c'est qu'on fasse une petite lecture, justement, du début du livre où Marie se rend compte que son réfrigérateur ne marche plus.
Voilà, oui, on va prendre un passage.
Voilà, un passage bien...
Elle reçoit son premier réfrigérateur,
voilà,
où elle se rend compte, effectivement, que qu'il ne marche pas.
Parce qu'en fait, voilà, elle a un réfrigérateur qui, un jour, tombe en panne, et elle en achète un nouveau, et le nouveau,
et
comme...
c'est le début de...
voilà, il ne marche pas. Et voilà. Alors, là, c'est vrai qu'on va écouter donc Alain Mounier qui lit donc un extrait de son livre « Givré ».
Marie ouvre avec dépit la porte et voit au fond de l'appareil un immense tableau de bord avec des boutons à tourner, des sélecteurs de choix, des voyants à n'en plus finir, mais tous éteints, des mots anglais qui font intelligent. Elle referme la porte et s'ouvre une bière tiède, on sait pourquoi. Elle reprend finalement la notice, contrôle la position, la prise est bien enfoncée, referme la porte des fois que, laisse passer une heure, l'ouvre, plonge sa main. Inutile de tergiverser davantage, il lui faut appeler Kickstore. C'est la société qui lui a vendu ce fameux frigo et qui est connue pour avoir réussi l'an passé son introduction au second marché grâce à une stratégie axée sur la gestion à flux tendu, la satisfaction du client et un marketing agressif dûment décliné à coups de dépliants, points de fidélité, numéros d'appel et courriers plein la boîte aux lettres. Hélas, derrière cette belle et puissante machinerie, il y a la cruelle impossibilité de joindre quelqu'un. Hormis le stagiaire qui, au travers du 0808-300-300, vous assène le dialogue qui s'est affiché sur son ordinateur en fonction de votre question. Du moins, ce qu'il suppose être votre question. Il y en a exactement 43 qui sont référencés. Il commence toujours par « Jean-Hugues à votre service », car c'est un type policé, inattaquable. Simplement, il n'a rien à faire de ce que vous lui demandez. Il ne pense même pas que vous lui demandez quelque chose. Il croit que vous êtes là pour jouer la scène 10 bis, celle de la réclamation, devant son inspecteur et que vous voulez remporter un joli succès. Bref, quand Marie lui explique que son frigo est branché mais que le moteur ne vrombit pas, que l'ampoule ne s'allume pas, que rien ne frémit du côté de la ventilation à froid pulsé dont le vendeur lui a vanté les mérites une heure durant, l'autre, de sa voix d'automate, lui répond « Bien sûr, madame », avec une désinvolture que l'on devine même s'il a le tact de n'en rien laisser paraître puisqu'il a été justement sélectionné pour ça parmi 800 candidats. Quand Marie ajoute, déjà passablement agacé, que ce frigo est neuf, il répond « Oui ». Qu'il coûte 699 €, il répond « oui ». Qu'elle a passé 4 heures à changer la porte de ce foutu appareil, il dit encore « oui », mais on sent qu'il ne sait déjà plus de quoi elle parle. Les portes des réfrigérateurs lui semblent appartenir à un monde underground qu'il ne fréquente pas. De toute façon, sur son écran, il y a écrit la consigne « Laissez parler le client durant 3 minutes » avec un chronomètre qui court en haut à droite. Au bout des 3 minutes, ou avant si le client s'essouffle, la nouvelle consigne est de dire « Bien madame » ou « Monsieur, nous pouvons vous communiquer l'adresse d'un réparateur ». Marie se demande à peine si que l'autre a enchaîné. Il s'agit de dépanne vite au 06 75 56 78 98. Il est préférable que vous les appeliez vous-même pour prendre un rendez-vous à votre convenance. Que répondre à tant de sollicitudes? D'autant que le dialogue, c'est toujours l'automate qui a le dernier mot après vos 3 minutes autorisées de colère, dit « Nous préviendrons dépanne vite de votre cas et de votre appel. Si le réparateur nous signifie que le problème est important, nous vous proposerons évidemment un remplacement pur et simple par ce même modèle ou un modèle équivalent si celui-ci s'avérait être indisponible. » Et vous me remonterez la porte à droite sur le modèle équivalent, s'écrit Marie avec rage. Là, le dialogue 23 n'a rien prévu. Mais la consigne précise qu'en cas d'imprévu, il faut enchaîner comme si de rien n'était. C'est-à-dire que le client roi qui a reçu des tonnes de prospectus, des bons de réduction et des garanties à ne plus savoir où les ranger, n'a plus qu'à aller brûler toute cette paperasse dans l'Antarctique si ça lui chante de réchauffer les pingouins. Si cela vous convient, madame, monsieur, nous en resterons là. Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez témoignée. Au revoir. Marie est tellement surprise qu'elle n'a pas le temps de lui dire qu'elle ne lui témoigne rien du tout. Elle rappelle aussitôt de rage. Élodie à votre service. Passez-moi Jean-Hugues. Je ne peux pas, madame. Je peux vous renseigner de la même manière. C'est Jean-Hugues que je veux. On ne passe pas les communications personnelles. Ce n'est pas personnel. Alors je peux, dialogue 18, cas d'une demande précédemment abordée.
Ouais, alors là, c'est vraiment, on a tous vécu ce genre de situation. C'est vrai que bon, en écoutant, j'ai envie de rire, quoi, parce que c'est vrai que c'est tellement.
Je crois qu'on y est tous tellement... passés un jour ou l'autre.
Ah ouais. Oui, on a tous connu ça. Puis bon, c'est très humoristique. Tout le livre, faut dire aux auditeurs, quoi. Tout le livre est comme ça. Hein, tout le livre est. Enfin, moi, j'aime bien parce que justement, c'est plein d'humour.
C'est sur ce ton, oui. C'est tout
voilà, sur ce ton-là, moi, j'adore. De toute façon, apparemment, j'ai une inconditionnelle, quoi. Et ça rebondit avec la réalité parce que c'est quand même. Bon, c'est basé quand même sur une réalité.
Oui, c'est un peu ce que j'ai.
Vie quotidienne de tous les jours. Et
voilà,
de tout le monde.
Et sous forme un peu de fable.
Oui.
Parce que cette histoire de frigo est assez improbable en soi, mais il n'empêche que quand on la lit, elle semble plausible.
Enfin, au départ, bon, après peut-être la
ou
fin.
Même, enfin, en tout cas bon, on sait bien que ce n'est pas possible, mais en même temps, l'enchaînement qui fait que tous ces frigos arrivent n'est pas farfelu.
Possible.
C'est
oui,
pas du
c'est
surréalisme,
vrai.
C'est
oui,
ça que
oui,
je veux
oui,
dire.
C'est
et c'est pour ça que je le vois plus sous la forme d'une fable que. Bon, mais c'est évidemment pas
c'est poussé à l'extrême,
voilà,
quoi.
C'est poussé
bon,
à l'extrême.
Fin, oui. Voilà. La fin, on ne dévoilera pas la fin.
Sauf l'histoire d'amour qui est peut-être plus racontée de façon plus sérieuse ou plus sensible.
Oui, mais elle est pleine de surprises aussi, je trouve. Même l'histoire d'amour est pleine de surprises, donc je trouve que vraiment c'est un livre voilà bien surprenant, bien amusant dans le sens voilà du ton humoristique et puis un peu de la satire voilà un peu de l'ironie et puis et donc moi j'ai beaucoup aimé et je vraiment je pense que bon. De toute façon, vous êtes un peu partout. On vous a vu dans La Dépêche, on vous a vu dans tous les médias et dans tous les journaux. Vous êtes au Marathon des mots. Donc, c'est un livre qui a
été bien reçu par la presse.
Oui, je pense qu'il a interpellé quand même.
Oui, oui.
Il a, parce que bon, ça change un peu de ce qu'on peut voir habituellement. C'est assez.
Mais disons que je crois que dans les retours que j'ai, je crois que c'est un livre qui est assez jubilatoire.
On passe un moment agréable.
C'est un peu ce qu'on me dit aujourd'hui, donc c'est peut-être pour ça qu'il.
On lit le début et bon, c'est difficile de le lâcher avant la fin parce que bon, on est pris dans ce.
C'est un peu les retours des lecteurs que j'ai aujourd'hui.
Oui, j'en fais partie.
Merci.
Et c'est vrai que voilà, on est pris vraiment dans l'histoire avec donc Marie, qui est la seule, je rappelle, qui est le seul personnage qui a un prénom.
Quasiment, oui, avec Jean-Hugues. Il y en a un autre.
Avec Jean-Hugues, voilà. la personne au téléphone, voilà. Et puis, donc, tous ces frigos, c'est assez, assez particulier, quoi. Cet univers plein de frigos, avec des personnes qui s'entrecroisent, qui se mêlent. Et pour finir, donc je vous dis, je ne raconte pas, mais bon, la fin est assez surprenante à tous les niveaux. Enfin, moi, j'ai trouvé.
Et c'est un livre qui, c'est l'histoire se passe à Toulouse, on l'a pas dit.
Oui.
Et
comme Toulouse les Parpaud d'ailleurs.
Hein,
les
Parpaud se passent. Parpaud, oui.
Deux,
mais là, c'est
deux sur trois.
Ça ancre un peu justement la fable dans ce côté de rue, de nom de.
Oui,
de,
tout à fait. Les restaurants,
café,
puisque bon,
restaurant,
Marie va dans un superbe restaurant.
Qui s'appelle les cuisines de l'opéra.
Voilà. Les cuisines de l'opéra, donc c'est un petit, là aussi c'est un clin d'œil.
Il y a le Concorde, du Visconti, des choses comme ça.
Et tous ces cafés existent, bien sûr,
oui,
la
oui,
rue
oui.
de l'Étoile.
Alors après j'ai un peu changé les rues, en tout cas je ne les ai pas mis au bon endroit des fois pour ne pas trop localiser, mais bon, sinon c'est l'utilisation de Toulouse comme décor assez prégnant dans le livre.
Le quai de Tunis, à un moment, hein, on parle du quai de Tunis, là, au bord de la Garonne. Non, c'est, voilà, ça, c'est vrai qu'on a oublié de le dire, ça se passe dans notre ville rose, comme le dernier Parpaud d'ailleurs,
voilà. Hein,
Parpaud le Bienheureux. Alors justement, notamment au niveau du, en parlant de Parpaud le Bienheureux, il va sortir en poche cet été.
Ah oui, alors le troisième Parpaud va sortir en pocket cet été,
en
mois d'août, je crois, m'a-t-on dit. Et puis, il y a une réédition aussi du premier Parpaud, signé Parpaud, chez Flammarion, pareil, dans le courant de l'été, je pense.
Voilà, donc il va donc le premier qui se passait, signé Parpaud, c'est quand...
C'est le premier, donc, de la trilogie.
Il se passait également à Toulouse.
Oui, il se passait effectivement
voilà.
À Toulouse.
C'est le second qui se passe à Paris,
voilà,
en fait.
Voilà, c'est ça, oui.
D'accord.
Parce donc, que Parpaud a bougé.
Voilà, bah oui,
et le Parpaud, troisième se passait à Toulouse et à Lourdes,
de nouveau.
Puisque c'était la recherche de Dieu. Voilà.
Et puis de l'amour aussi,
et
parce
de l'amour
qu'il
aussi.
A trouvé, hein, d'ailleurs. Et c'est pour ça que d'ailleurs, l'auteur
s'arrête.
S'arrête. Hein. Il n'y aura plus de Parpaud. C'est bien dommage, mais bon. Donc, vous avez d'autres projets, Alain Monnier, pour l'avenir proche
oui,
ou moins
oui,
proche,
bon,
d'autres
non, pas,
livres
pas proche,
en tête
bon, il y a des choses, oui, mais qui ne sont pas encore très, très mûres et
qui méritent voilà, un peu de temps pour...
À mûrir, en tout cas.
À mûrir. Donc, Givrée, voilà, ce n'est pas du tout... le titre, comme le titre ne l'indique pas, en fait, ça ne vous glacera pas le sang. Hein, c'est Givrée, mais dans le sens plutôt un peu loufoque, un peu fou, cette société, et puis les personnages, et puis l'histoire, tous ces frigos. Donc, je vous invite vraiment pour cet été, si vous ne l'avez pas encore lu, de le découvrir. Donc, Givrée, aux éditions Flammarion, de Alain Monnier. Et si vous voulez en écouter un extrait, donc... Il sera à la médiathèque de Toulouse le jeudi 15 juin à 15h. Donc, Alain Monnier sera présent. Et après, ça sera. Comment s'appelle-t-elle ?
Evita
Egoivive, qui lira un passage, un extrait donc, de Givrée. Donc, l'occasion, encore une fois, de revenir à ce livre très, très amusant que je vous conseille donc, de lire et de connaître pour passer un bon moment, comme moi j'en ai passé un. Quoi. Alain Monnier, je vous remercie beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, jeudi prochain. Je recevrai Jean-Jacques Fraissinet pour son livre « Maria et Dader, le coup de fusil ». Jean-Jacques Fraissinet, qui a été président de l'association Retina France et qui était venu l'année dernière pour un livre dont je ne me rappelle plus le titre, je ne suis pas sérieuse hein. Mais enfin il revient pour son deuxième livre la semaine prochaine, Maria et Dader, le coup de fusil. Je vous dis à la semaine prochaine, merci de votre fidélité, adiciats à tous.